Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal et à 19h15 le Club des Idées comme chaque soir. Carte blanche ce soir de la philosophe Juliette Funès. Et puis le grand débat à 19h20. Police, sécurité, faut-il tout changer? Après cette vidéo de passage à tabac du producteur Michel Zecler qui provoque une tempête politique, y a-t-il une crise de commandement dans la police? On en parlera avec nos invités. D'abord le journal avec Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et la réouverture des commerces demain sous très haute surveillance. Pas question de faire n'importe quoi, il faudra respecter les jauges.
En cas d'infraction, le commerçant sera sanctionné.
Protocole sanitaire qui laisse perplexe beaucoup de professionnels. Un client pour 8 mètres carrés, sauf si c'est un couple. Là, on a droit à 2 qui compte 1, ou à 3 ou 4 si c'est une famille qui compte 1 également. Bref, ça va pas être facile à gérer.
Le pataquès également des stations de sport d'hiver. Les Français privés de ski, mais pas les Suisses ou les Autrichiens.
Au fait, est-ce qu'on peut nous empêcher d'aller skier chez nos voisins?
La polémique autour de l'article 24. Après s'être mis à dos les parlementaires de sa majorité, le Premier ministre renonce à confier à une commission indépendante la réécriture de cet article controversé.
Dans ce journal également, on verra que l'Europe ouvre la porte à des sanctions contre la Turquie. Et puis le retour des supporters au Parc des Princes. Enfin, pas tout à fait, mais presque.
La tendance météo avec Anissa. Prudence dans le sud demain.
Oui, nous avons, Julien, ce soir 3 départements placés en vigilance orange pour pluie, inondation. Les pluies vont même s'accentuer demain après-midi dans le sud. Sur le reste du pays, nous aurons de la fraîcheur et du soleil. Je vous dis tout à la fin du jour.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ils espèrent rattraper donc le temps perdu. Les commerces dits non essentiels vont donc rouvrir dès demain matin.
Et 7 jours sur 7, jusqu'à Noël, mais ce sera d'autant plus compliqué pour eux de rattraper ce temps perdu que les nouvelles normes sanitaires sont très strictes, Virginie Salmen.
Oui, dans les centres commerciaux, il devra y avoir un contrôle à l'entrée générale et un autre à la porte de chaque magasin. Le nombre maximum de clients devra être respecté, y compris dans les allées, de façon à ce qu'il y ait 8 mètres carrés par client partout. Les commerçants devront faire attendre le surplus de clients à l'extérieur. C'est à eux de faire respecter la jauge dans leur boutique. Il y aura des contrôles, assure le ministère de l'Intérieur, et en cas de dépassement du nombre de personnes autorisées, le commerçant risque une amende de 135 euros et une mise en demeure ou une fermeture administrative partielle ou totale. Les clients peuvent aussi être verbalisés dans des cas extrêmes. Si par exemple ils forcent le passage à l'entrée d'un magasin ou bien s'ils refusent de sortir s'il y a trop de monde, ils risquent seulement dans le cas où ils violeraient intentionnellement la jauge une amende de 135 euros qui peut être majorée en cas de récidive jusqu'à 3 750 euros et 6 mois d'emprisonnement.
Merci beaucoup Virginie Salmen. Alors l'application de ce protocole sanitaire, elle angoisse un peu les commerçants. Comme le confie Franck Mattei, il est le porte-parole de Jouet Club. Car quand on parle d'un client pour 8 mètres carrés, comme vous nous l'expliquez Virginie, eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Écoutez ce casse-tête en perspective.
Dans le décret que le gouvernement a publié, on n'est plus sur une personne, mais on est sur une unité sociale. Donc si vous avez une famille avec deux parents et deux enfants, ce qui fait 4 personnes, eh bien en fait c'est une unité sociale, donc c'est un qu'il faut mettre dans notre jauge à nous. L'enjeu pour nous, c'est effectivement d'identifier qui sont les personnes qui rentrent dans le magasin, si c'est la même famille ou pas la même famille, pour les compter de façon correcte. Donc peut-être qu'au lieu d'avoir une personne pour 8 mètres carrés, en fait, il y aura peut-être une personne pour 6 mètres carrés. On va s'adapter, tout simplement. Finalement, ce qui compte, c'est le nombre de clients qui vont pouvoir passer en caisse dans les magasins. Donc, le fait de dire on va considérer qu'une famille, c'est égal à 1, eh bien, au final, ça va nous permettre de pouvoir servir plus de familles. Et donc, ça va apporter plus de satisfaction pour les consommateurs.
Le porte-parole de Jouet Club avec Élise Dangean.
Les messes, Isabelle, pourront reprendre dès ce week-end, mais avec une jauge limitée, 30 personnes.
Et la Conférence des évêques de France a déposé un recours devant le Conseil d'État pour contester cette mesure.
Compliqué également ou pas pour la gestion des vacances de Noël. Pas de ski pour les Français, mais certains de nos voisins, eux, ouvrent leurs pistes.
Alors, comment faire pour que des Français n'aillent pas skier en Suisse ou en Autriche? Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Ça ne va pas être simple, hein?
Non, alors en théorie, il y a deux manières d'y parvenir. La première, c'est d'obtenir que toutes les stations européennes restent fermées jusqu'à début janvier. Ça ne peut se faire que par la persuasion, c'est pas Bruxelles qui va le décréter. Or, l'offensive menée par la France ou l'Allemagne est moyennement appréciée hein, en Suisse et en Autriche. Certes, Jean Castex, le Premier ministre, a parlé à la présidente suisse ce matin, mais ce sont les cantons qui décident. Et pas question de fermer à Noël, assure par exemple le Valais où se situent entre autres les stations de Zermatt et de Crans Montana. En Autriche, l'économie des sports d'hiver pèse lourd. Là aussi, on est vent debout. Ça, c'est la première piste, si j'ose dire. Il y en a une deuxième, ça serait d'instaurer une quarantaine dissuasive au retour pour les Français qui partent dans des régions jugées sanitairement risquées. Ça, c'est autorisé par les règles européennes, glisse d'ailleurs la Commission européenne. L'Allemagne l'a déjà fait, car la Suisse et l'Autriche font partie des pays très touchés par le coronavirus. À ce stade, Paris n'envisage pas d'en arriver là, mais la décision n'est pas prise, dit-on au gouvernement.
Et vous continuez à suivre, bien sûr, le dossier. Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h07, la suite de votre journal avec toujours Isabelle Mille. Et bien sûr, il y a de la friture sur la ligne aujourd'hui au sein de la majorité, en cause cette commission indépendante à qui Jean Castex voulait confier le soin de réécrire le fameux article 24.
Tellement de friture que Matignon a dû calmer le jeu. Ce soir, exit la fameuse commission. Les services du Premier ministre précisent que la réécriture d'une disposition législative ne saurait relever que du Parlement.
Il était temps, effectivement, car Jean Castex a été la cible de toutes les critiques depuis ce matin. Tour à tour, deux des plus hauts personnages de l'État, Richard Ferrand d'abord, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. Ils lui ont demandé de renoncer.
Et d'où finalement ce rétropédalage, salué ce soir par Pierre-Alexandre Anglade, député porte-parole du groupe La République En Marche et membre de la Commission des lois.
C'est une clarification qui était absolument nécessaire. Clarification de la part du gouvernement qui précise que cette commission n'aura pas à se substituer au travail parlementaire. Et donc c'est un principe auquel nous sommes extrêmement attachés et que nous avons défendu aujourd'hui avec vigueur et qui a été entendu par le Premier ministre et par le gouvernement. Et donc ce soir, on est effectivement satisfait. Il faut savoir avancer. Il y a un débat parlementaire qui va se poursuivre sur la loi sécurité globale et sur l'article 24. Et donc il appartient au Parlement de corriger ou non cet article 24 s'il l'estime nécessaire, mais à personne d'autre. La majorité est fermement en soutien du Premier ministre et du gouvernement, et cela ne va pas changer dans les jours ou dans les semaines à venir. Le soutien du groupe majoritaire de La République En Marche au Premier ministre est total et il continuera dans les semaines et les mois à venir.
Le porte-parole du groupe La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, joint pour Europe 1 par Adrien Beck.
Les quatre policiers mis en cause dans l'interpellation violente d'un producteur de musique samedi à Paris sont actuellement en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, entendus pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste.
Alors qu'une nouvelle vidéo publiée aujourd'hui montre cette fois de façon plus claire la fin de la séquence après le tabassage en règle de Michel Zecler dans son studio de production.
Oui, on le voit traîner à l'extérieur par les policiers qui ont appelé des renforts, nombreux, une demi-douzaine de personnes.
Et il est, là encore, violemment frappé sur le trottoir, au moins à 7 reprises, notamment par un policier en civil, et toujours sans qu'il oppose la moindre résistance. Image absolument saisissante de cet homme à genoux qui hurle dans la rue.
Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, des sanctions contre la Turquie. Ça fait un moment que c'est dans l'air, eh bien ça se précise.
Et oui, le Parlement européen a voté hier une résolution qui invite l'exécutif européen à une extrême fermeté. Et on en parle ce soir, bien sûr, avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors les députés européens condamnent les récentes provocations de Recep Tayyip Erdogan et parlent d'un comportement illégal et unilatéral, notamment sur le dossier chypriote.
Absolument, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette récente décision turque de carrément coloniser une ancienne station balnéaire chypriote, la ville de Varosha, vidée de sa population grecque il y a 46 ans, en 1974, lorsque la Turquie a envahi le nord de Chypre pour y imposer un gouvernement à sa botte censé représenter les intérêts de la minorité turque de l'île. Et donc, depuis la fin de cette guerre, Varosha est devenue une ville fantôme sur la ligne d'armistice, avec des hôtels lépreux en front de mer, des immeubles décrépits, des maisons abandonnées, mais qui sont légalement protégés par les Nations Unies, la résolution 550, qui prévoit justement que seuls ces anciens résidents pourront y être réinstallés quand sera signé un plan de paix définitif entre la République de Chypre, rappelons-le, membre de l'Union européenne, et cette entité turcophone mise en place par Ankara, qui n'est reconnue par aucun pays au monde. Le problème, à part évidemment par la Turquie, le problème c'est que le président Recep Erdogan a décidé de repeupler Varosha avec des chypriotes d'origine turque pour y développer un gigantesque complexe touristique, et cela en totale contradiction avec les règles de droit fixées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est la raison pour laquelle les parlementaires européens ont lancé cet appel à des sanctions économiques fortes contre la Turquie.
Sachant que les résolutions du Parlement européen ne sont pas obligatoirement suivies par le Conseil de l'Europe.
Absolument, c'est un vote essentiellement symbolique, mais qui est loin d'être anecdotique. D'abord parce qu'il tombe à point nommé, à moins de deux semaines du sommet de Bruxelles au cours duquel plusieurs pays, dont la France, proposeront l'adoption de sanctions économiques contre la Turquie si son président s'enferre dans sa politique de menace systématique et de confrontation. Et puis ensuite parce que cette résolution a été adoptée à une très large majorité, 631 voix contre 3 et 59 abstentions. Donc par l'ensemble des groupes parlementaires, elle est une indication assez claire d'un sentiment largement partagé dans les opinions publiques en Europe. On ne peut pas en même temps rudoyer un pays membre de l'Union et réclamer son adhésion à l'Europe.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Les sports, le foot, France-Autriche ce soir, c'est à 21h. Qualification pour l'Euro féminin 2022. En cas de victoire, les Françaises seraient assurées d'y participer. En Ligue 1, 12e journée, Strasbourg-Rennes ce soir, 21h. La Ligue qui va rendre hommage à Maradona. Tous les joueurs se regrouperont pour former un M géant sur la pelouse avant le coup d'envoi.
Et à propos de foot, une nouveauté demain pour les joueurs du PSG qui affronteront Bordeaux.
Le
Pourquoi
Parc
une nouveauté
des Princes ben parce que le Parc des Princes résonnera de nouveau de chants de supporters. Alors non, on n'est pas en train de vous annoncer que les tribunes vont rouvrir. Julien Froment, les responsables du club estiment simplement que c'est trop triste et trop dur de jouer dans un stade vide.
Oui, voilà, car ce qu'on entend, ce que les joueurs entendent sur la pelouse du Parc des Princes depuis 3 mois, c'est ça. Des échos de voix, des bruits de ballons et face à eux, des travées désespérément vides, pas de drapeau, pas d'écharpe, donc pas de chant pour les pousser. Pour y remédier, le Parc des Princes va diffuser cette bande sonore. Ce que vous entendez, ce sont des chants authentiques des ultras du virage Auteuil, un moyen de rassurer les joueurs pour Denis Troche, préparateur mental.
Pour la confiance en soi ou pour la confiance, la grande confiance de chacun d'entre nous, on a besoin de repères. La confiance qu'on appelle la confiance en la situation. Retrouver quelque chose qui ressemblera à ce que l'on va vivre. Et là, on est moins perdu. Quelque part, on a l'impression d'être un peu nu quand on est sans public et sans son. Eh bien, là, on se rapproche d'un match normal.
Alors, un test grandeur nature a été effectué la semaine dernière à l'occasion du PSG Lyon féminin et c'est concluant pour les dirigeants du club. En tout cas, il n'y aura que des chants à la gloire des Parisiens, rien pour l'adversaire bordelais qui, lui, en revanche, accueillera Paris avec du public et des vrais supporters le 7 mars prochain, si les conditions sanitaires le permettent.
Évidemment. Merci Julien Froment du service des sports. Une dernière minute. En ski alpin, le Français Alexis Pinturault vient de remporter le parallèle de Coupe du Monde de Lech. C'est en Autriche et c'est sa 30e victoire.
Merci Bravo. Isabelle, bon week-end. Pas bon de week-end folie dans les commerces, hein ?
Non, surtout pas.
Pas trop de folie dans les commerces. Et vous aussi, Anissa, pas
non,
trop de folie ce week-end.
Malade.
C'est pas parce que les commerces sont ouverts qu'il
non.
faut y aller sur la carte bleue.
On sera calme.
Bien. Alors, trois départements en vigilance orange. Demain,
oui.
c'est ce qui nous intéresse.
Prudence dans le sud. Effectivement, Julien, demain, les Pyrénées-Orientales et les deux départements Corse sont concernés par cette vigilance orange pluie-inondation. L'épisode pluvieux qui a commencé hier est en train de se poursuivre et ça va durer encore ce soir, cette nuit et demain dans le sud. Ça concerne les départements du Languedoc, de l'Aude, de l'Hérault. Le Roussillon est également concerné et les deux départements Corse où là nous avons de la pluie très soutenue demain matin, des coups de tonnerre. Dans l'après-midi, les pluies vont s'intensifier. Sur la Provence et la Côte d'Azur, le ciel est couvert mais là les pluies sont plus faibles et partout ailleurs. Encore pas mal de brouillard le matin et dans l'après-midi, vous allez pouvoir en profiter pour vous balader, prendre l'air, puisque nous aurons un grand soleil dominant sur la France. Un vrai temps d'automne, du soleil et du frais.
Et bien tant moins mieux, parce qu'on aura le droit de se balader un peu plus que d'habitude.
Exactement, moins 2 à 13 degrés demain matin.
Bien, merci Anissa, bon week-end.
Bon week-end,
qu'est-ce
à lundi.
Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, vous ?
Eh bien, je crois que je vais sortir les habits d'hiver, puisque lundi, nous aurons des températures négatives, par exemple,
aïe,
à Paris.
Aïe, 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 aïe,
je vous ai cassé
aïe, aïe.
Le moral.
Bah oui, complètement.
Bon week-end.
Merci, bon week-end à vous, en tout cas. Dans quelques secondes, le débat du Club des idées, police-sécurité. Y a-t-il en France un problème de violence policière et de crise du commandement ? On en parlera avec nos invités après cette terrible vidéo de passage à tabac d'un producteur de musique noire. D'abord, 19h15, la carte blanche signée ce soir Julia de Funès.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Julia de Funès.
Bonsoir Julien.
Philosophe et spécialiste du bien-être en entreprise. Alors ce soir, votre coup de griffe contre le choix insupportable pour Noël que nous impose le gouvernement.
Un peu de bonheur en perspective n'est pas très bien toléré en ces sombres temps. Ne doit pas être heureux qui veut. Nous serons en effet obligés de faire des coupes, de diviser nos familles si l'on écoute bien la raison médicale. Mais alors qui choisir entre mon frère aîné, ma sœur cadette, mon amour de Nantes ou ma tante de Brest ? Les conflits familiaux, eux, ne vont jamais aussi bien se porter. Puisqu'un certain rationalisme médical va jusqu'à gérer nos moindres faits et gestes, nous avons eu, grâce à un éminent professeur de médecine mardi dernier, la notice comportementale concernant la gestion de la bûche.
Et donc,
on la coupera en deux. Nos aînés, que ce professeur si bien attentionné se vante de protéger tout en les dénigrant par des appellations infantilisantes et chosifiantes que sont papy et mamie,
oui,
seront relégués comme des débris ou des commodes Louis XV dans la cuisine, pendant que les plus jeunes mangeront l'autre partie de la bûche, dans le salon ou la salle de bain. On n'a pas encore eu de précision sur l'affectation exacte des autres pièces de la maison. Je pourrais multiplier les exemples de cette rationalisation médicale poussée à l'extrême, jusqu'à l'absurde ou l'abject.
Avec un peu d'ironie, et vous le faites très bien, Juliette Funès, qu'est-ce que ça nous dit philosophiquement tout cela ?
Que la folie n'est pas le contraire de la raison. Ce serait une erreur de réduire la folie à la déraison. C'est comme ça que Descartes définissait la folie d'ailleurs. Le contraire de la raison, le fou est celui qui ne raisonne plus. Le fou est celui qui a perdu la raison. Eh bien non, nous avons la preuve exacte du contraire que Kant ou Foucault ont déjà théorisé depuis longtemps.
Oui.
La raison peut devenir ivre d'elle-même au point d'en devenir folle, c'est-à-dire d'inclure et de ficeler l'ensemble de la réalité des individus dans les filets de ses procédures logiques, de ne rien tolérer qui l'excède. La raison devient folle quand elle enferme le réel dans sa logique et n'adapte pas sa logique au réel. C'est ce qu'on appelle une idéologie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une logique qui tourne autour d'une seule idée.
Eh bien, je vous ai suivi, Juliette Funès. Quelle est votre conclusion ?
Vivre sans folie n'est donc pas un signe de bonne santé mentale. La folie n'est pas ici à entendre comme pathologie mentale, mais comme pas de côté, hauteur de vue, distance, respiration, intelligence et charme dont trop de raisons nous privent. Certains de nos médecins ne vont donc pas bien.
Message entendu. Merci Juliette Funès.
Merci Julien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h20 et ce soir dans le débat du Club des Idées, cette question, y a-t-il un problème structurel de violence au sein de la police ? Il y a bien sûr cette vidéo de passage à tabac du producteur parisien, les événements de la place de la République avec l'évacuation des migrants, mais aussi d'autres bavures, d'autres propos. Alors y a-t-il une crise de commandement ? La police nationale doit-elle se réformer ? Faut-il aussi peut-être mieux la contrôler ? On en parle donc ce soir avec Léo Moreau. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre du Bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On en parle également avec Fabien Jobard. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, spécialiste des questions de police, directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et on en parle également avec le criminologue Alain Bauer. Bonsoir. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, je voudrais d'abord vous entendre, Léo Moreau. Est-ce que ces bavures à répétition sont, selon vous, le signe d'une police en crise ?
Je crois que, d'abord, ces bavures, elles nous font du mal. Quand on voit des vidéos comme celle qu'on a vue de l'intervention dans le 17e arrondissement, elles nous affaiblissent collectivement et on a reçu de nombreux messages de collègues qui nous disent à quel point ils sont tristes et ils sont en colère que leur image soit associée à ce type de comportement. Donc après, on a effectivement un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas hésiter à dire que le racisme n'a pas sa place dans la police. Les violences illégitimes n'ont pas leur place non plus dans nos rangs. Et après, il y a un certain nombre de problèmes de formation, de commandement et de structure.
Mais est-ce qu'il y a une crise aujourd'hui au sein de la police nationale ?
Il y a une institution qui est extrêmement sollicitée depuis 2015 finalement, qui a été sollicitée à la fois sur le front de l'antiterrorisme, du maintien de l'ordre, de l'antidélinquance. Il y a un malaise, il y a une attente des policiers pour que les choses changent. Donc
oui.
Voilà, après on l'appelle comme on veut, mais c'est
on va rentrer dans le détail après des solutions ou des idées qui sont sur la table pour réformer soit le contrôle, soit le fonctionnement de la police nationale. D'abord, une question d'ordre général, Léo Moreau, je vous poserai la même. Y a-t-il aussi aujourd'hui une crise au sein de la police nationale et des forces de l'ordre ?
De mon point de vue, sociologue de la police, il y a effectivement crise de cette institution pour deux raisons. Je pense que la France est le seul pays en Europe qui, à ce point, fasse les unes de journaux sur les problèmes policiers. Un jour de racisme, un autre de violence, un troisième de, que sais-je, absentéisme, défaillance des services de renseignement et autres. Dans aucun autre pays européen, cette institution suscite une telle interrogation collective. Et puis, il y a crise.
Parce que des bavures, il y en a ailleurs en Europe.
À la fréquence à laquelle, à laquelle elles sont observées en France, je ne pense pas connaître de pays européen qui ait la même fréquence de bavures médiatisées,
oui,
comme en France.
D'accord. Constat, on vous a entendu, Fabien Jobard. Même question, Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes d'accord, il y a un problème structurel en France avec ces violences à répétition de la police nationale ?
Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un problème structurel. Si vous voulez dire qu'il y a un problème systémique, ma réponse est non. Si vous voulez me faire dire qu'il y a des policiers violents ou des violences policières, parce que c'est une question d'emballage qui ne règle rien en fait sur la réalité de plusieurs crises que subit la police, une crise sociale, une crise d'identité, une crise matérielle, une crise morale, une crise de moyens, une crise de fatigue aussi. La réponse est oui. Je précise toutefois que la police nationale française, police d'État, est relativement peu comparable à la quasi-totalité des autres polices européennes parce qu'elle a une sorte de monopole structurel, police plus gendarmerie, alors que dans la plupart des autres pays, les systèmes sont plutôt fédéralisés avec un très grand nombre de polices locales, municipales, régionales, territoriales, qui effectivement ont beaucoup moins de problèmes, ou en tout cas la visibilité de leurs problèmes est de moins grande ampleur, oui, et qui sont peu comparables avec la police d'État française.
Alors ma question portait sur le caractère systémique, effectivement, vous l'avez dit Alain Bauer, parce que c'est vrai que, pour reprendre le cas d'espèce, sur le passage à tabac de Michel Zecler, une autre vidéo, vous l'avez vu, à l'extérieur, montre qu'il se prend d'autres coups par d'autres policiers, 6 autres l'immobilisent alors qu'il crie, et tous les autres regardent, plus de 15 policiers au total pour un seul homme à terre. Est-ce qu'on peut toujours parler, dans le cas d'espèce, d'un cas isolé, Alain Bauer?
Je ne sais pas si ce cas est un cas isolé. Un système, une dérive systémique, c'est quand l'ensemble de la hiérarchie décide que la violence contre les citoyens est un phénomène normal, qu'on doit la récompenser, la soutenir et la promouvoir. Or, il
là,
se trouve
non, je vous pose
aussi
la
paradoxal
question,
que
vous pose
ça
la
puisse
question,
paraître.
Je vous pose la question parce que...
Oui, mais j'aimerais finir ma réponse, si ça ne vous ennuie pas, parce que j'appartiens à la catégorie des gens qui répondent aux questions.
Bien, mais je la prolonge
comme
simplement.
Comme vous me la posez, je vais y répondre.
Je la prolonge simplement parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 15 policiers qui sont autour et personne ne bouge et tout le monde semble trouver ça normal.
Systémique, ça a un sens. Ça veut dire que l'ensemble de la structure est favorable à des violences policières de manière systémique et structurelle. Là, la question qui est posée, c'est la capacité qu'ont une partie des policiers à tolérer des agissements insupportables des autres au nom d'un processus qui est l'esprit de corps ou leur interprétation de l'esprit de corps. Ce sujet-là est un vrai sujet majeur. Le fait que la police d'État ait des dispositifs qui sanctionnent massivement les policiers est une réalité en interne, et le fait qu'on ne sache pas très bien comment elle gère ces sanctions dès lors qu'il y a une confrontation avec des citoyens pose un problème sur la légitimité et, je dirais, la capacité à admettre qu'elle peut le faire. Mais je ne crois pas qu'il y ait systématiquement des violences policières comme si toute l'institution considérait la violence comme un mécanisme normal et régulier. Et d'ailleurs, la plupart des policiers mis en cause sont ceux qui mentent autant à leur hiérarchie qu'au pouvoir judiciaire avant de se faire prendre la main dans le sac. Donc la réponse à votre question est non, il n'y a pas de violences policières systémiques. Oui, il y a des policiers violents et malheureusement, il y en a trop.
Alors, je vais récupérer votre nuance. Elle est importante dans sa précision. L'esprit de corps, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Alain Bauer, Léo Moreau? Est-ce qu'il y a un esprit de corps qui fait que la violence n'est jamais dénoncée au sein de l'institution policière?
Je crois qu'il y a deux choses qui sont différentes. Bien sûr qu'il y a un esprit de corps
et que
dans
j'ajouterai,
la police.
Pardon, et que cette question est taboue.
Non, la question n'est pas taboue. On voit depuis ce matin, mais on le voit aussi à chaque fois qu'on a ce type de vidéo, un certain nombre de policiers qui s'expriment et qui disent aussi leur tristesse et le fait qu'ils n'ont pas envie d'être associés à ce type de comportement. Maintenant, vous me demandiez s'il y avait un esprit de corps dans la police. Oui, il y a un esprit de corps. C'est un métier qui est extrêmement difficile. Ça, je crois que tout le monde le reconnaît, où on est confronté au quotidien à la misère, à la mort. Donc oui, il y a une forte solidarité entre les fonctionnaires. Maintenant, il ne faut évidemment pas que ça conduise, comme ça peut parfois être le cas dans certaines unités, à couvrir ce type de comportement.
Alors, 19h27, vous restez avec nous. On se posera la question de la formation de l'IGPN et puis de la lutte contre le racisme aussi au sein de la police. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la violence au sein de la police après cette vidéo de passage à tabac du producteur parisien qui s'appelle Michel Zecler. On en parle donc ce soir avec nos invités. Question ce soir pour vous, Fabien Jobard. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions de la police. Pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une crise de commandement, comme l'écrit aujourd'hui Le Monde dans son éditorial, au sein de la hiérarchie policière? Est-ce que le fait qu'il y ait ces dérapages est lié à la manière dont sont dirigés et commandés les agents de la police nationale?
Si on prend appui sur la vidéo qu'on a vue, on voit des fonctionnaires de police passer à tabac un individu sans raison manifeste de le faire pendant de longues minutes, sans qu'à aucun moment la moindre hiérarchie se rappelle à leur bon souvenir et leur disent, par radio ou bien en se déplaçant sur les lieux, les gars, on s'arrête quelques instants et on se demande, on essaye de savoir ce qu'on fait, est-ce que c'est bon ? En fait, notamment dans les grandes agglomérations, à la suite de différentes réformes de la police qui ont été engagées depuis une quinzaine d'années, il y a de moins en moins de hiérarchie sur le terrain et dans les services et en commandement. Aujourd'hui, l'une des crises, et c'est ce qui donne son aspect systémique, l'une des crises de la police, c'est que les gardiens de la paix sont engagés plus jeunes. Ils entrent dans la police avec un temps de formation qui est moindre qu'auparavant.
Alors on va en parler de la formation.
Et ils arrivent sur le terrain en étant moins encadrés que ne l'étaient leurs prédécesseurs. Et donc ça donne des policiers qui tabassent un individu sans même craindre que la hiérarchie puisse un moment, oui, être au courant de ce qu'ils ont fait.
Alors, on en parlera plus précisément et on rentrera dans le détail des choses sur la formation, sur la crise de commandement. C'est vrai que, pour reprendre des exemples concrets, outre la vidéo de Michel Zecler, à La République, lundi soir, place de la République à Paris, c'est un commissaire divisionnaire, haut gradé de la brigade anticriminalité, qui a fait ce fameux croche-pied à un manifestant. Et c'est le préfet d'Allemand qui ordonne cette évacuation par des hommes dont, visiblement, ça n'est pas la mission, c'est ce qui a été dit. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir agi au petit matin, dans le calme, avec des unités de maintien de l'ordre habituées à ces opérations ? Ce sont évidemment des questions qui se posent. Alain Bauer, votre position sur cette crise ou non de commandement ?
Oh, je ne sais pas s'il y a une crise de commandement. Je pense qu'il y a un défaut et un déficit de commandement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Fabien Jobard. L'écrêtement qui a commencé d'ailleurs dans les années 95, il y a plus de 20 ans maintenant, qui visait à transformer un cylindre en pyramide, non pas en créant de nouvelles fonctions ou en offrant de nouveaux dispositifs, mais en supprimant beaucoup de commissaires, d'officiers, supprimant aussi des officiers de police judiciaire, ce qui a amené une crise moins visible, mais très importante, de la qualité de la procédure judiciaire, et ça n'est pas rien, est une réalité physique. Quant à demander à des unités de BAC ou à des policiers qui n'ont jamais été formés au maintien de l'ordre, aux moyens du maintien de l'ordre, aux techniques du maintien de l'ordre, à l'armement du maintien de l'ordre, qui sont des amateurs du maintien de l'ordre, de gérer le maintien de l'ordre, ça a toujours été un drame et ça a été un désastre dans l'affaire des Gilets jaunes. Et ce désastre n'est toujours pas résolu. Alors quand ça sort, si vous voulez intervenir le matin, le soir, l'après-midi, ce sont des questions de tactique et des décisions qui sont prises bien au-delà du préfet, quel qu'il soit, d'ailleurs de police ou d'ailleurs, mais les manques d'effectifs et l'incapacité à les mobiliser du fait de ces pertes considérables d'effectifs spécialisés d'un côté et d'encadrement de l'autre ont des effets sur, effectivement, les violences, les exactions et la visibilité qu'on peut trouver de ces situations.
Je rappelle qu'en 2017, d'ailleurs, Emmanuel Macron disait ceci, « Ce que je ne comprends pas, disait-il, c'est que l'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a, de manière évidente, un problème. » Léo Moreau, membre du Bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est également avec nous ce soir en studio. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème de hiérarchie et de commandement ?
Oui, il y a un problème de hiérarchie, mais il y a un problème de structure de toute façon dans la police. Bon, je précise simplement qu'à ce stade, a priori pour les fêtes samedi soir, pour autant qu'on le sache, il n'y avait pas de commissaire ou d'officier sur le terrain dans le 17e. Donc on verra, l'enquête établira les conditions dans lesquelles les agents ont rendu compte ou non justement de leur action. Après, on a une chaîne de commandement qui devrait évoluer. C'est pas le cas parce qu'il y a aussi beaucoup de conservatisme dans la police. On a encore, ce qui n'est pas le cas par exemple dans la gendarmerie, deux corps différents, les officiers, les commissaires, qui sont formés sur des sites différents alors qu'ils relèvent de la même école. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps pour qu'on ait un commandement plus uni, plus fort et en capacité aussi d'encadrer davantage les effectifs. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Après, on parlait de la République, du problème des unités engagées. Effectivement, si vous demandez à un professeur d'histoire de faire un cours de maths, il va le faire moins bien. Si vous demandez à des gens qui ne sont pas formés à la gestion des foules, comme les brigades anticriminalité...
Il y a un patron quelque part, en l'occurrence le préfet l'Allemand, qui a demandé à, à des unités dont ça n'est pas forcément la spécialité, d'intervenir. Donc il y a une responsabilité de la hiérarchie dans le cas d'espèce.
Il y a bien sûr des gens qui prennent les décisions, donc des responsabilités, après qui remontent la chaîne de commandement, au-delà même des officiers et des commissaires qui sont engagés sur le terrain, on le disait. Pourquoi ce choix et
non, mais puis, je pose la question parce qu'il y a un argument qui revient beaucoup, c'est le sentiment d'impunité. On nous dit que les policiers agissent parfois comme ça parce qu'ils ont le sentiment d'impunité, Fabien Jobard.
Effectivement, si on voit que les policiers qui ont passé à tabac Michel Zecler, samedi 21 novembre, ont conduit cette victime au poste, l'ont placée en garde à vue pour violence contre les policiers et sont même allés jusqu'à le présenter au procureur, en étant presque certain qu'au fond, le procureur n'y verrait rien et laisserait passer. Alors, il se trouve que le procureur, quelque chose lui a suggéré que la situation n'était pas normale. Il a relâché Michel Zecler.
Avant la diffusion de la vidéo ?
Absolument. Il a relâché Michel Zecler, l'a libéré des charges qui pesaient sur lui et au contraire a demandé une enquête sur les policiers. Mais ça veut dire qu'en temps normal, temps normal, des policiers à Paris, en plein cœur de Paris, 17e arrondissement, peuvent se dire « j'ai passé à tabac quelqu'un, je vais me présenter devant le procureur en le chargeant d'outrage et de violence, et ça passera comme une lettre à la poste ». Et donc là, pas seulement la police qui est une institution en cause, mais l'articulation entre la justice, et notamment le parquet, et la police.
Je voudrais vous faire partager une archive. Ça se passe il y a 28 ans au journal de 20h sur France Télévisions.
Et maintenant, un rapport qui fait des vagues. La Fédération internationale des droits de l'homme évoque en des termes très directs le racisme endémique de la police française. Vous imaginez la suite. Les syndicats de policiers crient au scandale. Pour eux, on utilise des incidents mineurs pour jeter la suspicion sur toute une profession.
Voilà, racisme endémique. Vous avez entendu Alain Bauer. Cette fois, ce n'est pas moi qui le dis. C'était en 1992.
Ah mais je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que dit la Fédération internationale des droits de l'homme. Il y a des racistes dans la police et peut-être y en a-t-il beaucoup ou y en avait-il trop. Il se trouve que si vous regardez la police, comme chacun peut le constater, elle a évolué, elle s'est diversifiée et il y a probablement encore des racistes, des extrémistes, des fascistes et des violents dans la police. De là à faire ce que vous essayez de faire et qui ne me semble pas raisonnable, une sorte de généralisation systémique justement sur ils sont tous racistes, ils sont tous extrémistes, ils sont tous fascistes et ils sont tous violents. Je peux vous faire la même chose sur les instituteurs soi-disant pédophiles ou les curés mis en cause pour des violences sexuelles.
Il
faut gérer, il faut s'interdire l'essentialisation et la généralisation hâtive. Ça n'empêche pas de poursuivre et d'éjecter tous ceux qui se laissent aller à ces penchants, et particulièrement dans une police nationale qui se veut républicaine.
Alors, question concrète, faut-il, pour avancer, réformer l'IGPN pour un contrôle plus indépendant, Léo Moreau ?
On peut regarder ce qui se passe à l'international, on peut regarder un certain nombre de choses. Pour autant, moi, je ne veux pas non plus laisser croire que la police n'est pas contrôlée aujourd'hui, puisque c'est l'administration d'État qui prend plus de 50% des sanctions qui sont données dans la fonction publique de l'État, avec un peu plus de 5% des effectifs.
Oui.
Il y a un contrôle à la fois par l'IGPN, dont les enquêteurs font un travail compliqué, et je veux quand même le rappeler, sous l'autorité de la justice, quand ils agissent dans le cadre judiciaire, il y a un contrôle hiérarchique, il y a un contrôle par les médias. Donc il n'y a pas une police en roue libre, comme on peut l'entendre quelquefois.
Le syndicat de la magistrature dit, lui, sur environ 10 000 signalements, je cite les chiffres à l'IGPN, il y a 3% de sanctions.
Oui,
je ne sais pas si c'est trop peu ou pas.
Ce sont les chiffres du syndicat de la magistrature. Il faut savoir de quel signalement on parle.
Oui.
Parce qu'il y a aussi une plateforme de signalement sur Internet, ce qui n'est pas le cas pour d'autres administrations, sur laquelle vous pouvez saisir directement l'IGPN. Mais est-ce que ça relève ou pas d'une procédure disciplinaire, d'une procédure judiciaire ? Ça, effectivement, à chaque fois, l'IGPN analyse au cas par cas.
Alors,
la situation.
Vous évoquiez, Léo Moreau, ce qui se passe à l'étranger. C'est vrai qu'il y a un exemple, c'est l'Angleterre qui est assez singulier. Là-bas, le directeur général de l'équivalent de l'IGPN est nommé par le ministère de l'Intérieur, mais n'a pas le droit d'avoir travaillé dans la police auparavant. Il en va de même pour toute l'équipe qui est à la tête de l'institution. Quant aux membres de ce conseil exécutif, ce sont des citoyens. Est-ce que ça, c'est une piste à suivre, Fabien Jobard ?
Oui, c'est une piste à suivre. Il faut quand même bien garder à l'esprit que je maintiens l'idée qu'il faut des policiers pour enquêter sur la police. Parce que c'est une maison compliquée, c'est une maison à mains égards opaque. Et si vous n'y avez pas passé suffisamment de temps pour connaître un peu les ficelles du métier, vous ne pourrez pas rentrer dans la police et subitement faire la lumière.
C'est pas moi qui le dis, c'est Fabien Jobard, il faut des policiers.
Il faut des policiers, mais en effet, il ne faut pas pour autant que ces mécanismes d'enquête soient à circuit fermé, en coulisses. Et c'est trop souvent l'impression que donne l'IGPN. Si vous prenez le rapport annuel de l'IGPN, vous serez bien en peine de comprendre au fond combien de violences alléguées par les citoyens ont débouché à la fin sur des sanctions prises, en partie à cause de difficultés techniques, mais aussi parce qu'il n'y a pas ce regard extérieur dans une institution qui permettrait, comme le fait le défenseur des droits, d'avoir au fond un point de vue plus équilibré sur la manière dont fonctionne l'institution et sur les déviances qu'on peut y constater.
Bien. Même question, Alain Bauer, et vraiment Alain Bauer, je veux clarifier les choses. Vous savez, moi je suis un grand défenseur de la police nationale, mais je suis comme Antoine Griezmann. Quand j'ai vu ces images-là, c'est vrai que j'ai eu un peu mal à ma France, comme il a tweeté sur les réseaux sociaux. Votre sentiment, vous, sur l'IGPN, est-ce qu'il faudrait réformer cet organe de contrôle ?
C'est-à-dire qu'il faut garder la technicité et la compétence pour les affaires internes qui sont l'essentiel de l'activité de l'IGPN et imposer la présence, par exemple, je l'ai écrit il y a déjà une dizaine d'années, d'un représentant du défenseur des droits pour toutes les affaires qui concernent des exactions ou des exactions alléguées sur des citoyens. Je ne pense pas qu'il faut détruire l'IGPN, je ne pense pas qu'il faut la remplacer par un organe entièrement citoyen et extérieur. Et le système anglais, je vous rappelle qu'il y a 52 polices, pas une seule, ce qui explique aussi des différences très importantes, comme aux États-Unis où il y en a 16 000. Nous, on en a grosso modo deux, plus des polices municipales, qui nécessiteront un jour d'ailleurs elles-mêmes d'avoir leurs inspections créées. Mais en la matière, je pense que l'essentiel, c'est d'imposer, dès lors qu'un citoyen est pris à partie ou conteste ou indique qu'il a été victime d'une exaction ou d'une violence non justifiée, et d'ailleurs, je ne vois pas laquelle pourrait être justifiée d'ailleurs, alors il faut qu'il y ait en plus de l'IGPN, à l'intérieur de l'IGPN, un représentant du défenseur des droits.
Problème de formation ou pas aussi, je ne sais pas qui veut répondre, Léo Moreau, problème de formation au sein de la police, ça a été évoqué tout à l'heure par Fabien Jobard, celle d'un adjoint de sécurité par exemple, est de 12 semaines je crois, 3 mois pour porter l'uniforme et apprendre les bases. La formation d'un gardien de la paix, ça dure un an. On sait que c'est eux qui sont ensuite sur le terrain. En Allemagne, par exemple, à Berlin, la formation d'un gardien de la paix, c'est 2 ans et demi. Et en sortie d'école, ils sont envoyés dans les quartiers sensibles, les agents de sécurité de la police nationale française. Est-ce que la formation est suffisante ?
La formation doit certainement évoluer parce que, vous le disiez, à la fois au niveau de sa durée et de son contenu, il y a des choses qui doivent changer. Le président de la République, dans son programme en 2017, nous avait dit qu'il allait faire une académie de police qui réunirait les différents corps de la police nationale, les gardiens de la paix, les officiers, les commissaires, pour travailler ensemble et pour améliorer la formation. Donc on attend la concrétisation de ce projet, que personnellement on appelle de nos voeux au SCSI pour améliorer la formation. Pour l'instant, on ne voit rien venir, alors qu'il y a de vraies questions. Je parlais tout à l'heure de la formation des cadres qui est encore séparée aussi. Donc oui, il y a des évolutions qui doivent intervenir et peut-être aussi une meilleure connaissance des territoires dans lesquels les policiers seront affectés en sortie d'école pour qu'ils ne les découvrent pas au moment de leur premier contact dans ces quartiers.
Fabien Jobard, vous disiez tout à l'heure, vous avez amorcé la conversation qu'on a maintenant, la formation c'est l'une des clés.
Oui, la formation, c'est l'une des clés parce que les policiers qui interviennent dans les quartiers les plus difficiles sont aussi les policiers les plus jeunes. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que parmi les 3 ou 4 policiers mis en cause là, dans l'affaire dont on a parlé, ils aient peu d'années de service derrière eux. Et donc on est face à un paradoxe quand même assez singulier. Dans les quartiers dans lesquels il faut des policiers expérimentés, on envoie les plus jeunes en sortie d'école. Et la durée de la formation a été réduite lorsque, avec le président Hollande, on a défendu l'idée d'une police qui serait massivement employée sur l'antiterrorisme. Il fallait subitement du bleu partout pour garder les écoles, pour garder les institutions, pour patrouiller. Et donc, le président l'avait dit lui-même, je raccourcirai le temps de formation pour qu'il soit plus rapidement présent dans la rue. Ça donne une catastrophe, rendez-vous compte. À Berlin, comme vous le disiez, où la police est régionale, donc les policiers sont berlinois, ils parlent d'ailleurs avec l'accent berlinois là-bas, Les policiers sont sur le terrain en responsabilité après 3 ans, ans et non pas 12 mois.
Oui. En tout cas, dans le cas d'espèce, vous évoquiez l'affaire de Michel Zecler, c'est dans le 17e. Et d'après ce qu'on semble voir sur la photo, il y a un des 3 agents qui a l'air un peu plus âgé que les autres. Donc je ne sais pas si c'est un jeune policier, comme vous l'évoquiez à l'instant. Alain Bauer, d'accord sur le constat que la formation est insuffisante aujourd'hui en France ?
En fait, il y a deux sujets. Il y a la formation initiale qui a été beaucoup réduite et qu'il faudrait remettre à un niveau acceptable, qui est bien plus élevé. Il y a la formation permanente, le fait que ce n'est pas parce qu'on a appris un jour le code de déontologie, les gestes autorisés et parfois même les gestes qui ne le sont plus, que ça reste. Et donc, il y a un vrai problème de suivi et de remise à niveau régulier et permanent des policiers. Et puis, il y a une situation tout à fait inédite et rarissime, qui est que la France est un des rares pays où on peut être commissaire de police sans avoir été policier soi-même. Dans la plupart des autres pays, on devient policier, puis brigadier, on fait des concours internes, ils peuvent même être rapides si on est extrêmement brillant, mais au moins, on a connu la réalité du terrain et appris beaucoup de ces choses et de cette expérimentation. Et effectivement, comme vous l'indiquez lui-même, d'après ce que j'ai pu voir dans les retours sur cette dramatique et scandaleuse affaire du 17e arrondissement, un des policiers n'était pas un jeune policier, mais un brigadier, ce qui veut dire que le problème n'est pas seulement la formation des jeunes mis en place très rapidement dans des endroits très sensibles, un peu comme les instituteurs ou les enseignants d'ailleurs. Oui. On sent bien que Mammouth 1 et Mammouth 2 se ressemblent beaucoup de ce point de vue-là, l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, mais aussi du fait de suivre ces affaires, de les remettre à niveau, et ça vaut pour la déontologie comme pour les gestes techniques.
Alors vous faites une transition toute trouvée pour la dernière partie, Mammouth, parce que c'est vrai que derrière tout ce qu'on se dit là, on amorce un certain nombre de pistes, de réflexions, de solutions, éventuellement de réformes, mais il faut derrière que le pouvoir public, que les responsables politiques enclenche ces réformes et ces réflexions. Je voudrais vous faire partager ce qu'a dit aujourd'hui Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Il y a un déni sur le fait qu'il y a de la violence chez certains policiers. Il y a un sujet aujourd'hui avec le préfet de police de Paris qui, dans sa doctrine du maintien de l'ordre, donne tous les ingrédients pour que ça se passe mal.
Alors, ce n'est pas sur le préfet l'allemand que je voudrais qu'on revienne ensemble, c'est sur le mot déni. C'est vrai qu'il y a une forme de tabou, de déni, appelons-la comme l'on veut, cette manière de ne pas voir les choses. Mais du coup, on a l'impression que cette réflexion-là qu'on a tous ensemble ce soir, on n'arrive pas à la mener sereinement autour de la police nationale.
Ouais, moi, je ne veux pas dire le contraire de Laurent Berger. Hein, notre organisation est affiliée à la CFDT.
Mais c'est pour ça que j'ai fait en sorte de vous le faire écouter.
On est un syndicat attaché, évidemment, à la conception d'une police républicaine. Il n'y a pas de déni de nos collègues, mais il peut y avoir un déni institutionnel des problèmes dans certaines unités qui ne concernent pas l'ensemble des policiers, parce que ça n'aurait pas de sens de dire que l'ensemble des policiers sont violents et racistes, mais personne d'ailleurs, je crois, ne partage ce point de vue. Voilà, ce qu'il faut, c'est traiter le problème de manière pragmatique. On a un certain nombre de problèmes qu'on évoquait, de formation, de structure, de commandement.
Mais la volonté politique, où est-elle ?
Oui, la volonté politique, elle a été, je crois, défaillante sur cette question, parce que jusqu'au président de la République, vous vous souvenez qu'a été quand même prononcé un interdit de prononcer même le mot violence policière. Mmh. Violence policière n'existe pas dans un état de droit, puisque ça n'existe pas dans le droit. Oui. Voyez. Et donc, quand le politique est amené à réfléchir sur cette question et à réfléchir sur les moyens de contrôler la police, il est trop tard.
Alain Bauer, en quelques secondes, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mener cette réflexion-là aujourd'hui en France ?
Parce que l'État central en France vit avec une idée curieuse qui est qu'il a un problème avec le peuple, de la Grande Jacquerie jusqu'à nos jours, il a peur de la Révolution. Il considère la police non pas comme une police nationale, mais une police d'État, une garde prétorienne. C'est d'ailleurs un des éléments structurants de sa propre histoire, la police d'État. Hein. Elle ne vient pas du Mésozoïque supérieur de l'Antiquité romaine. C'est une création baroque à un moment difficile de notre histoire. La police nationale s'est nationalisée, elle fait des efforts pour devenir une vraie police nationale, mais par contre, l'État, lui, la considère comme sa garde prétorienne. Il en a à la fois besoin et parfois peur. Il sait ce qu'il lui doit dans l'affaire des gilets jaunes, et donc régulièrement, il y a des tentatives, elles ont eu lieu avec Pierre Joxe, par exemple, oui, pour déontologiser la police, et puis il y a des moments, avec Charles Pasqua ou d'autres, pour dire, bon, je prendrai votre défense quoi qu'il arrive, et puis des ministres plus équilibrés qui ont dit si vous êtes agressé, je vous protégerai. Vous commettez des exactions, je vous punirai. Mmh. Et je crois que les policiers sont assez grands pour ne pas être infantilisés ou apeurés ou piédestalisés, mais pour comprendre que cet équilibre-là, il est le cœur de ce qui sauvera leur institution. Et que d'ailleurs, parmi tout cela, c'est moins les politiques qu'eux-mêmes qui doivent aussi agir pour éjecter les brebis galeuses qui autrement saliront l'ensemble du corps policier. Et c'est ça l'enjeu aussi.
Eh bien, voici un message raisonnable qui conclut parfaitement cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. 19h50, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on plonge maintenant, comme chaque soir, dans les archives d'Europe Soir. On part en Grande-Bretagne pour vous raconter la chute de Margaret Thatcher. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Johanna Chabas.
Bonsoir.
C'était il y a pratiquement 30 ans, jour pour jour, le 28 novembre 1990, la fin d'un règne. Le jour où Margaret Thatcher, la dame de fer, Premier ministre britannique depuis 11 ans, quitte le pouvoir.
Oui, c'est une image qui a marqué tout le Royaume-Uni. Margaret Thatcher sort du 10 Downing Street, la résidence des premiers ministres britanniques. Elle est debout devant la foule, comme toujours. Son costume est parfaitement taillé, sa coiffure impeccable, mais on remarque qu'elle a les larmes aux yeux, une émotion rare pour la dame de fer, qui, la voix nouée, tire sa révérence.
Ladies and gentlemen,
nous quittons Downing Street pour la dernière fois après 11 merveilleuses années. Et nous sommes très heureux de quitter le Royaume-Uni dans un bien, bien meilleur état que quand nous sommes arrivés ici il y a 11 ans.
Goodbye. Dernier mot donc, après 11 ans de pouvoir comme Premier ministre, de 15 ans à la tête du Parti conservateur, l'annonce de la démission de Margaret Thatcher fait bien sûr l'effet d'une bombe au Royaume-Uni et dans le monde entier.
Et oui, même en France, c'était la une de tous les journaux, comme le raconte à l'époque Philippe Aubert pour sa revue de presse sur Europe 1.
À peine croyable, mais c'est tout juste si vos quotidiens ne pleurent pas le départ de Margaret Thatcher. Les commentaires ont même des allures de nécrologie. L'humanité semble pleurer sur l'air de Capri, c'est fini, avec ce titre « Maggie, c'est fini ». Quelques quotidiens régionaux jouent avec le célèbre surnom « la dame de fer ». La dame de fer déboulonnée à la une de la montagne, on aurait pu ajouter qu'elle est enfin sortie de ses gonds.
Voilà, on est donc en novembre 1990. Alors quand on s'y penche de plus près, Johanna, les réactions sont extrêmement partagées face à ce départ. La figure de Margaret Thatcher divise profondément la société britannique.
Oui, car l'axe central de la politique de Margaret Thatcher, c'est le néolibéralisme, la déréglementation de l'économie. Alors certains retiennent les effets bénéfiques, plus de croissance, Londres est devenue une nouvelle place forte de la finance mondiale, mais d'autres y voient surtout la casse sociale provoquée par cette politique. Le règne Thatcher, c'est aussi un chômage qui explose, des syndicats brisés, 22% de la population sous le seuil de pauvreté. Une nouvelle misère que François Clémenceau a constatée pour Europe 1 à Finchley, au nord de Londres.
Ces 15 dernières années, le père Picard et son ami Tony, qui organisent chaque dimanche une soupe populaire dans la salle attenante à l'église, ont vu leurs paroissiens changer au gré de la politique Thatcher. Au début, les paroissiens de cette église étaient en majorité ouvriers. Aujourd'hui, ils appartiennent à la middle class. Tony accueille chaque dimanche une centaine de pauvres gens dans cette église. Un tiers de sans-abri, deux fois plus qu'il y a 10 ans. Le reste tire le diable par la queue. Pour Tony, ce sont vraiment des victimes du thatcherisme.
100 personnes à une soupe populaire ici, ça n'existait pas dans les années 70.
Oui, on le sait, Johanna, la décennie Thatcher aura déchiré tout le pays. Mais ça ne s'est pas arrêté à sa démission.
Non, ça a même continué après sa mort en 2013. Il y avait deux camps au Royaume-Uni. D'un côté, Margaret Thatcher a le droit à des obsèques organisées par l'État avec des honneurs militaires. Son cercueil tiré par des chevaux entre dans la mythique cathédrale Saint-Paul de Londres. Même la reine y assiste, c'est rarissime. Et le tout est retransmis en direct à la télévision. Mais en même temps, un peu partout dans le pays, les détracteurs de la Dame de Fer se rassemblent pour chanter joyeusement « Ding dong, the witch is dead ». Ding Dong, The Witch is Dead comprenait Ding Dong, la sorcière est morte. La chanson vient du magicien d'Oz et elle a été tellement écoutée cette semaine-là qu'elle arrive à la 3e place du hit parade britannique.
C'est l'info en plus. Merci Johanna Chabas pour ses archives et ce récit.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans un instant, le rappel de l'info. Et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Quel est le programme ce soir?
Je suis tellement contente ce soir d'accueillir une des plus belles voix rock et soul de France. Et ce, depuis les années 60. Un chanteur qui vient du Maroc, qui s'appelle Vigon. C'est la première fois que je vais l'interviewer et je suis dans mes petits souliers, je suis trop contente.
Bon, on sera au rendez-vous, merci.
Merci.
Et bon week-end. Merci à l'équipe du 18-20 pour cette semaine exceptionnelle d'actu et d'infos. On se retrouve nous lundi, même lieu, même heure. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, évidemment, sur Europe 1, bien sûr. Merci de votre fidélité, bon week-end à tous.